answer that for us, please?
The voice of the world, the sound with the beat, the sound that sets you tapping your feet. Radio.
You're listening to Hang Time.
You know who the best planet game is? Me, Mars Blackman. And I'm way above the rim, demonstrating some serious hang time.
Hi, this is Alex Berto.
Salut à tous, c'est Vincile de C2C au Focus.
Hi, this is Omar.
This is Charles Peterson.
Hey, yo, c'est Chelsea Buzz.
Yo, this is Amp Taylor.
Hey, yo, yo, c'est Dimitra.
Salut, c'est Chinese Man.
Big up, la part de Bopaya. Hang Time.
With DJ Mars.
Mars.
With Mars.
Mars B.
With Mars Blackman.
Goodbye, Mars.
Salut à tous, bienvenue sur le 88.8 radiogrenouille.com. Si vous êtes connecté sur les internets, vous êtes bien dans Hang Time. C'est l'épisode 12 de la saison 12. Je n'ai qu'une partie de ma team ce soir. Elodie Rama est en déplacement, mais Seb Gelly est bien là en place. Salut Seb.
Salut.
Je te propose une soirée entre mecs ce soir.
Eh ben écoute, pourquoi pas.
Est-ce que ça te va?
Il y a du foot et des pizzas.
Mieux, on parle NBA sneakers ce soir. On ira à New York parler avec un insider photographe spécialiste de la NBA, notre ami Emmerich Parker aka Fresh Air. Et on ira en fin d'émission du côté de Strasbourg rejoindre nos amis de l'émission Sneak on Air, la seule émission radio 100% sneaker. On sera avec Samuel Mantelet. Est-ce que ça te va, mon ami, comme programme?
Ça m'a l'air parfait tout ça.
Eh bah écoute, c'est notre dernière émission avant Noël.
Tout à fait, ouais.
Puisque l'an prochain, on se retrouvera, puisque le 24 décembre, c'est un mardi, et que le 31 décembre, c'est un mardi aussi.
Eh oui.
On réveillonne ensemble ?
Chiche.
Je suis partant. Grave. Bah c'est toi qui démarre, mon ami. Qu'est-ce que tu nous as préparé ce soir ?
Alors, on va partir dans quelques instants aux États-Unis, mais on fait d'abord une petite pause par Londres.
Ah.
Plus précisément, le quartier de Croydon, dans le South London, où on va aller rencontrer Stormzy. Alors Stormzy, dixit mon ami Jonah, c'est le renouveau de la grime anglaise en fait, un digne successeur des Dizzy Rascal, Wiley ou encore Skepta,
ouais.
Qui s'est fait connaître en 2017 par un premier album Gang Sign as Prayers,
okay.
Et qui vient de sortir un deuxième album Heavy is the Head, du très très lourd. Bon voilà, la grime anglaise c'est un peu vénère, donc je t'ai choisi un morceau plutôt souple avec un refrain limite gospel qui s'appelle Crown.
Ouais, mais la grime anglaise c'est grave son truc.
Ouais.
Bon, on s'écoute ça tout de suite. La sélection de Seb Gelly dans Hang Time. Bienvenue à tous.
Searching every corner of my mind. Looking for the answers I can't find. I have my reasons and life has its lessons. I try to be grateful and count all my blessings. But heavy is the head that wears the crown. Amen in Jesus' name, yes I declare it. Any little seed I receive, I for share it. Brothers wanna break me down, I can't bear it. But heavy is the head with the crown, I still wear it. You can't hold me down, I still cold. Rain falling down on the bricks, I'm still soaked. Try to put a hole in our ship, we'll build boats. Two birds with one stone, I pull both. Pray I never lose and pray I never hit the shelf. Promise if I do that, you'll be checking on my health. If it's for my people, I'll do anything to help. If I do it out of love, it's not to benefit myself. Ooh, gotta stay around but make a comeback too. I know my only mother wants a son back too. They're saying I'm the voice of the young black youth. And then I say yeah cool. And then I bump my zoo. And now I'm searching every corner of my mind.
Search every corner. Look for the answers.
Looking for the answers I can't find.
Now I can find them. No silver lining.
I have my reasons. Life has its lessons. Try
try to be grateful and count all my blessings, but heavy is the head that wears the crown.
Amen in Jesus' name, oh yes, I claim it. Any little bread that I make, I have to break it. Brothers wanna break me down, I can't take it. I done a scholarship for the kids, they said it's racist. That's not anti-white, it's pro-black. Hang me out to dry, I won't crack. All these fancy ties and gold plaques. Never had no silver spoons in our mouths, we sold. Like, don't comment on my culture, you ain't qualified. Stab us in the back and then apologize. If you knew my story, you'd be horrified. The irony of trapping on the Boris bag. Gotta stay alive and save my brother as well. Look at all these legends on the cover of Elle. Long time coming, but we come to prevail. I guess a little bit of heaven has to come with the hell, you know?
Searching every corner of my mind.
Search every corner, look for the answers.
Looking for the answers I can't find.
No rock and fire, no silver diamond.
I have my reasons, life has its lessons. Try to be grateful and count all my blessings, but heavy is the head that wears the
La sélection de Seb Jelly pour démarrer l'épisode 12 de la saison 12 d'Hang Time. Oh, c'était du grime tranquillou, hein?
Ouais, plutôt, ouais. Le reste de l'album est bien plus énervé.
Ça va, bah là on a démarré donc en douceur. On va partir de Londres directement à Tel Aviv, du côté d'Israël bien sûr. On va retrouver un de nos percussionnistes favoris qui s'appelle Cutiman. On en avait parlé il y a longtemps, alors c'était dans les toutes premières saisons d'Hang Time. Il a sorti un nouveau track qu'on aime beaucoup. On va pas vous mentir, ça fait un petit moment qu'il est dans notre coffre-fort. Ça tombe bien, on a retrouvé le code, on en a sorti quelques-uns. Celui-ci, Cutiman, Line 4 dans Hang Time. Line 4, on va partir maintenant aux Antilles, Seb. On va retrouver un habitué d'Hang Time, David Walters. Ça fait longtemps qu'on n'a pas parlé.
Tout à fait.
David Walters, donc, qui sort son tout nouveau projet du côté de chez nos amis d'Heavenly Sweetness. Ça, c'est une excellente nouvelle. Et ce morceau, Crier Mouen dans Hang Time ce soir. Walters avec Crier Moine, David que l'on salue et on lui souhaite déjà de belles fêtes. Et on a hâte de le retrouver très bientôt ici même dans les studios d'Hang Time, un que l'on ne retrouvera peut-être pas. Notre ami Jonas nous en a parlé tout à l'heure. Il a pris, je sais plus ce qu'il a dit, une rafale dans la. Il faudrait qu'il nous dise.
Une rafale de dragées dans la carlingue.
Une rafale de dragées dans la carlingue. C'est l'élégance qui nous parle ce soir, puisqu'on parle de Notorious B.I.G. qui, avec un beau remix d'Amerigo Gezaway, Christmas Time in Brooklyn, on prend déjà l'avion, on part du côté de New York.
It's Christmas.
It was all a dream. I used to read Word Up magazine. Salt and pepper and heavy D up in the limousine. Hanging pictures on my wall. Every Saturday, rap attack, Mr. Magic, Molly Mall. I let my tape rock to my tape pop. Smoking weed and bamboo, sipping on private stock. Way back when I had the red and black lumberjack. With the hat to match. Remember rapping Duke? The hard, you never thought that hip hop would take it this far. Now I'm in the limelight cause I rhyme tight. Time to get paid, blow up like the World Trade. Born sinner, the opposite of a winner. Remember when I used to eat sardines for dinner? Pizza, the Ron G, Brucey B, Nick Capri. Funk Master Flex, love bug, star ski. I'm blowing up like you thought I would. Call a crib, same number, same hood. It's all good. And if you don't know, now you know, nigga. And if you don't know, now you know. I made the change from a common thief to up close and personal with Robin Leach. And I'm far from cheap. I smoke skunk with my peeps all day. Spread love, it's the Brooklyn way. Alizé keep me pissy. Girls used to diss me. Now they write letters cause they miss me. I never thought it could happen, this rapping stuff. I was too used to packing gats and snuff. Now honey's playing close like butter play toast. From the Mississippi down to the East Coast. Condos to Queens, in dope for weeks. Sold out seats to hear Biggie Small speak. Living life without fear. Putting five carrots in my baby girl ear. Lunches, brunches, interviews by the pool. Considered a fool cause I dropped out of high school. Stereotypes of a black male misunderstood. And it's still all good, And if you don't know, now you know, nigga. And if you don't know,
it's
now you
Christmas
know. Super Nintendo, Sega Genesis. When I was dead broke, man, I couldn't picture this. 50-inch screen, money green, leather sofa. Got two rides, a limousine Christmas with the chauffeur. Phone bill about 2 G's flat. No need to worry, my accountant handles that. And my whole crew is lounging, celebrating every day, no more public housing. Thinking back on my one room shack, now my mom picks a act with minks on her back. And she loves to show me off, of course. Smiles every time my face is up in the sauce. We used to fuss when the landlord dissed us. No heat, wonder why Christmas missed us. Birthdays was the worst days. Now we sip champagne when we thirsty. Damn right, I like the life I live. Cause I went from negative to positive and it's all. And if you don't know, now you know, nigga. And if you don't know,
it's
now you
Christmas
know, nigga.
Christmas time in Brooklyn, Notorious B.I.G. On vous l'a dit, le temps de ce morceau, on a pris l'avion, on est parti du côté de New York, on délaisse un peu Brooklyn, on monte un petit peu du côté d'Harlem et on va retrouver un de nos insiders favoris, photographe, qui accueille les Français d'ailleurs quand on va à New York pour nous faire faire un tour de Big Apple, mais pas que. Nous sommes avec Aymeric Parker, a.k.a. Fresh Air. Salut mon ami.
Ouais, salut Pierre, comment vas-tu Pierre?
Ça va bien?
Bah écoute, très bien.
Bon, Christmas time in Brooklyn.
Christmas time in Harlem, ouais. À la chaleur, près du sapin, à la maison, tranquille. Et on va essayer de déblater un petit peu ce qu'on fait sur la culture sneakers, culture de la rue et culture NBA. Merci encore de votre invitation.
Eh ben avec grand plaisir. Alors justement, on disait photographe français expatrié, tout d'abord à Miami pendant de nombreuses années, maintenant basé à New York depuis 6 mois à peu près. C'est ouais. L'activité de Fresh Air. Il y a beaucoup d'autres choses aussi, notamment autour de la culture basketball.
Je suis photographe là, passionné depuis mon adolescence, et c'est vrai qu'il y a 4 ans j'ai décidé avec ma petite famille de partir à Miami. Donc je suis d'origine américaine et mon épouse aussi, donc on n'a pas eu trop de problèmes pour venir s'installer ici, s'expatrier, pas de problème de papier, donc ça a évidemment été une épine dans le pied en moi. Et cet été, on a décidé après 4 ans de Miami de venir à New York, puisque c'est vrai que c'est une ville qu'on connaissait, moi et ma femme, très très bien, mais on n'avait jamais eu encore les guts de venir, donc le courage intérieur de venir à New York. Et c'est vrai que c'est pas la même chose d'être touriste de passage et d'être vraiment vraiment citadin. Donc là maintenant, c'est vrai que c'est toute la culture de la rue que j'ai incorporé à mon être depuis que je suis ado. Moi j'ai plus de 40 piges. Et c'est vrai que en ayant grandi dans les années 90 au niveau culture hip-hop, culture streetball, et là je reprends tout dans la gueule d'un seul coup. Et c'est une cure de juvence. Et c'est vraiment vraiment agréable. Et mon actu, moi, en plus d'être photographe sur place, eh bien, c'est par le biais de mon enfant, hein, parce que j'ai un petit gars aussi qui joue au basket. Et c'est vrai que j'ai pu rencontrer beaucoup d'acteurs du basket new-yorkais. Et tous les jours, j'essaye de redonner ça par le biais de mon Instagram, ou par le biais des rencontres que je peux faire aux gens qui sont de passage, pour être un petit peu le pont entre la France et l'Europe, et puis la culture de la rue afro-américaine que j'ai la chance de fréquenter tous les jours, quoi.
Alors cette chance de fréquenter tous les jours, nous on l'a eu, puisqu'on était venu il n'y a pas si longtemps que ça, et on a eu le plaisir de passer quelques jours justement en ta compagnie, où tu nous avais fait faire un magnifique tour du côté de Bushwick, un tour du côté de plein d'endroits différents, voilà.
Brooklyn, Bushwick, c'est vraiment un endroit magnifique pour les fresques de street art. Bushwick, c'est un endroit qui est avec Wynwood à Miami, un autre endroit que je connais bien, peut-être une des places fortes du hip-hop et de la culture de l'art de rue dans le monde, parce que là, tout le monde, les gens qui s'y intéressent un peu connaissent très bien le Bushwick Collective, qui vient de ce quartier de Bushwick. Et c'est vrai que c'était un plaisir de vous avoir, puisque entre Français et à l'étranger, c'est vrai que c'est bien d'avoir toujours des visiteurs qui sont dans la même passion, dans la même mouvance que toi, donc c'était une belle rencontre, ouais.
Alors on va parler ce soir aussi, tu l'as dit, basketball, on va parler NBA, puisque tu fais partie des bons insiders de la Grande Ligue. C'est arrivé à New York, donc t'es pas parti au bon moment, on va dire, puisque ça va mieux du côté de Miami que de New York. Comment est perçu le drama permanent des Knicks du côté new-yorkais, justement?
Ouais, ça énerve beaucoup, beaucoup les New-Yorkais. C'est vrai que ça fait quand même plus de 20 ans que les Knicks n'ont pas eu une équipe digne de ce nom. Il y a eu des espoirs successifs avec Zion Williamson à la draft, avec Kevin Durant qui voulait venir. Et c'est vrai que depuis Carmelo Anthony qui est parti, c'est vrai que New York a besoin d'avoir un franchise player, a besoin d'avoir une star. Et même la NBA en général, à mon avis, a besoin, comme à Los Angeles, d'avoir vraiment un équilibre dans la force, East Coast, West Coast, pour que New York, qui est quand même la ville numéro 1 aux États-Unis, les gens ont tendance à l'oublier, c'est que New York, c'est 9 millions d'habitants. Brooklyn et le Queens, c'est 2,5 millions d'habitants chacun. C'est-à-dire que même si Brooklyn était une ville indépendante, elle serait la quatrième ville des États-Unis. Enfin, New York, c'est 9 millions d'habitants, comme Los Angeles, c'est 4 millions d'habitants. Donc c'est vraiment, vraiment un marché qui est hors du commun. Et si tu rajoutes, si tu saupoudres là-dessus une culture de la rue qui a peut-être pas d'égal aux US, peut-être à Chicago, mais même à Miami ou même à Los Angeles, t'as pas cette culture de la rue et de basket. C'est vrai que New York mérite d'avoir vraiment une équipe de ce nom. Et maintenant que Fizdale est parti, on va peut-être pouvoir reconstruire. Mais c'est vrai que le président est sur les tablettes aussi pour le départ, et il faut vraiment vraiment que Dolan fasse quelque chose, quoi, le propriétaire, pour que New York récupère un peu du poil de la bête, quoi.
Alors le New York, les Knicks d'un côté, Brooklyn avec les Nets de l'autre, qui ont taffé fort l'été dernier avec l'arrivée de Kevin Durant et de Kyrie Irving, qui sont souvent blessés, on les voit pas beaucoup, malgré ça l'équipe tourne quand même pas mal. Les prix ont explosé du côté du Barclays Center. Pourtant, est-ce que pour autant les bandwagon fans sont partis du Garden pour passer sous le pont?
Non. Les vrais New-Yorkais, les anciens, restent fans des Knicks. Les Brooklyn Nets, avant, ils étaient dans le New Jersey. Et le New Jersey, pour un vrai New-Yorkais, c'est la campagne, quoi. C'est comme la Picardie pour un Parisien. C'est c'est pas le même délire. D'ailleurs, on les appelle, ces mecs qui viennent du New Jersey, on les appelle les Bridge and Tunnels, ici aux États-Unis, à New York, puisque c'est eux qui doivent constamment prendre des ponts et des tunnels pour venir là où ça se passe. Donc depuis que Brooklyn a déménagé, bon, c'est vrai qu'il y a eu un peu de hype avec le Big Three et puis le changement de propriétaire asiatique. Et puis on revient à Brooklyn, un peu comme les Dodgers au baseball. Mais Brooklyn, ça reste une équipe quand même qui est vraiment plus locale à Brooklyn, qui a moins de hardcore fans en fait. On n'est pas encore dans la fan base et la Knicks Nation comme on pourrait l'avoir du côté du Madison. À Brooklyn, d'ailleurs, les billets sont toujours moins chers à Brooklyn que pour le Madison Square Garden. Enfin, même si les Knicks fouettent à 3 km, on paye quand même bien plus cher pour venir voir les Knicks que venir voir les Nets. Pour moi, ce qui est une aberration, mais c'est la loi du marché. Donc non, Brooklyn a tapé un grand coup avec KD, qui va être blessé toute l'année puisqu'il s'est pété le tendon d'Achille l'année dernière. Kyrie, lui, est venu aussi, et donc c'est vrai que ça apporte un peu de zeste de funk. Mais là, il est blessé aussi, il s'est blessé à l'épaule. Donc c'est vrai que les Brooklyn Nets, il y a quand même quelque chose de prometteur. Il y a toujours un effectif de qualité. Il y a un coach qui est d'ailleurs passé par la case France, donc c'est un francophile avéré. On a un Français en bout de banc aussi qui est en G-League, c'est-à-dire la deuxième zone de la NBA, qui fait des allers-retours, Timothée Luwawu-Cabarro, qui est maintenant en bout de banc chez les Nets. Donc non, tout ça fait qu'il y a une excitation certaine autour des Nets, mais je pense qu'elle va vraiment commencer l'année prochaine, quand KD et Kyrie seront réunis, parce que cette année, c'est un peu une année de transition du côté de Brooklyn pour retrouver un peu cette star attitude qui manque tant à New York, en fait.
Justement, le basket européen, tu en as parlé, le contingent européen qui se porte comme un charme du côté de la NBA. On parle même pas de Giannis, mais en ce moment, hier, Porzingis qui permet aux Mavs d'aller gagner à Milwaukee. Le phénomène Luka Doncic, comment s'est perçue cette percée du basket européen en NBA? Est-ce que les Américains, du coup, s'intéressent toujours autant? On sait qu'il y a en ce moment des chutes vertigineuses d'audience sur les matchs. Est-ce que c'est dû peut-être à ça?
Les Américains, ils sont toujours un peu dubitatifs. C'est-à-dire que, tu vois, ils vont encenser LaMelo Ball qui joue en ligue australienne. LaMelo Ball, c'est le fils d'un des moguls médias, LaVar Ball, qui a essayé de placer ses 3 fils en NBA. Et LaMelo Ball, qui joue en Australie en ce moment, a plus de hype et plus respecté que Luka Doncic ne l'était alors qu'il venait de régner sur l'Euroleague avec le Real Madrid. Donc c'est vraiment pour remettre ça dans le contexte, c'est que pour les Américains, au niveau basket, c'est eux et personne d'autre. Donc Luka Doncic, même 2 ans après, il est toujours un peu, voilà, bon, ben, la Ligue a changé, il y a moins de défense, c'est pour ça qu'on lui donne toujours des excuses, alors que indéniablement, le mec pue le basket, respire le basket et a un IQ, un QI basket vraiment hors du commun. Maintenant, pour revenir à leur façon de penser, j'ai eu la chance là de croiser Larry Johnson, une des stars grand-mama des Charlotte Hornets et des New York Knicks il y a quelques semaines, et j'ai pu un peu lui parler. Et le mec me disait que voilà, il faut que le basket américain revienne aux fondamentaux, revienne à une intelligence de jeu. Et c'est vrai que pour le moment, et c'est encore plus vraiment flagrant avec le système AAU, qui est le système qui est en dehors du système scolaire. AAU, ça veut dire Amateur Athletic Union, donc c'est cette espèce de coupe de cursus extra basket, enfin plutôt extra scolaire que les basketteurs en herbe ont la chance de faire aux États-Unis, qui coûte d'ailleurs très très cher. Et dans ce système AAU, on est vraiment tout pour l'attaque, c'est du run and gun, c'est vraiment physique, c'est athlétique, donc les gamins à partir de 12-13 ans sont vraiment sont des machines de guerre quoi, athlétiquement, mais derrière on n'est plus dans le basket un peu Spurs que la NBA a essayé de montrer avec le niveau de jeu léché d'un Manu Ginobili ou des gens vraiment vraiment intelligents comme Tony Parker, Boris Diaw pour ne pas les citer, ou Tim Duncan, même des îles Vierges. Mais vraiment, la NBA doit comprendre, et la formation aux États-Unis doit comprendre, que s'ils ne changent pas rigoureusement leur façon de penser le basket, on verra encore de plus en plus de joueurs, de prospects européens venir dominer. Avant, on avait quelques joueurs, Toni Kukoč, Drazen Petrović, qui est malheureusement décédé, mais qui était un diamant à l'état brut. Mais aujourd'hui, quand on voit Luka, quand on voit Giannis, bon, qui est nigérian, mais qui vient d'Europe, qui a été formé en Europe, quand on voit Kristaps Porzingis, ben c'est vraiment, vraiment, vraiment un shift qui se met au niveau de la NBA. Et avec en plus l'envol de NBA Africa, on va avoir maintenant l'Afrique et l'Europe qui vont envoyer des contingents de joueurs. Et je pense que les Américains souci à se faire.
Ce qui a du souci à se faire, c'est un petit peu l'intérêt en ce moment de certaines performances, puisque ça devient, on le sait, hein, et on en avait parlé déjà, le sport US, qui est un sport de statistiques dans tous les domaines. Cette année, les statistiques volent en éclats, les records volent en éclats également. Tu l'as dit, tu as malheureusement, comme beaucoup d'entre nous dans ce studio, plus de 40 ans. On a grandi sur une certaine idée du basketball, une certaine idée de la compétition. Les performance de James Harden aujourd'hui, sans passer pour un vieux con, tu en penses quoi ?
Alors j'en pense que offensivement le mec reste un maître. C'est un chef d'orchestre au niveau de l'attaque. Maintenant, c'est pas comme ça qu'on gagne. Moi, je me rappelle de Jordan dans la saison 87-88 où le mec met 37 points par match. Et Jordan n'a jamais gagné comme ça. C'est-à-dire qu'il s'est toujours éclaté la gueule contre les Celtics, même s'il marque 63 points en playoff. Record d'ailleurs qui tient toujours de Jordan en playoff en 86 contre les Celtics de Larry Bird. Et après, les deux années d'après, contre les Pistons de Détroit qui lui le mettaient à l'amende avec les Jordan Rules. Mais Jordan, un jour, il a compris qu'il fallait déléguer un petit peu. Et le problème, c'est que James Harden, on est dans une culture en plus à laquelle tu mélanges l'essor et l'envol des social media, donc vraiment les mecs ils se gargarisent avec leur propre image, et je pense que James Harden ne comprend toujours pas qu'il ne gagnera jamais à marquer 60 points par match. C'est-à-dire qu'il va peut-être gagner un match par-ci, un match par-là, mais sur le long run, donc si on regarde sur l'intégralité de la saison, le mec ne passera pas et n'arrivera pas en finale NBA. Donc c'est vrai que ces performances-là, elles sont géniales, et donc on est sur du NBA 2K et on est sur du social media, ça fait du clic, ça fait du buzz. Mais sur un véritablement basketteur pur, à part offensivement où vraiment il régale avec des step back et des petits dribbles très très bas, non, je suis pas autant impressionné que Michael sur les deux triplés qu'il fait dans les années 90, ça c'est clair.
Il y en a un qui fait sa 17e saison dans la Ligue cette année, qui l'an dernier a été un petit peu blessé, on n'avait pas l'habitude de voir ça, qui avait l'air comme une âme en peine, qui a dit c'est la revenge season. On le voit, il sourit, il est content sur le terrain, il s'amuse et en plus il gagne, c'est LeBron James. Ça ne s'arrête jamais, la legacy LeBron.
Je suis le premier surpris, honnêtement. C'est vrai que bon, moi, je respecte énormément le joueur qui est LeBron, parce que voilà, c'est un athlète hors du commun. J'ai un peu de mal avec les plus jeunes que moi qui ont tendance à oublier un peu l'histoire et qui même oublient Kobe Bryant. Pour moi, LeBron reste un top 5. Ne sera peut-être jamais le GOAT in my book, comme on dit aux États-Unis, mais c'est vrai que Jordan, moi, reste le numéro 1. Kobe a été vraiment ce qui se rapproche le plus de Michael au niveau compétition, au niveau agilité, au niveau voilà, cette espèce de mouvement félin pour aller au panier. LeBron est un peu plus brut de décoffrage, mais d'un point de vue longévité, je veux dire, c'est pour moi c'est peut-être le plus grand athlète qui n'ait jamais été en NBA. Vraiment, et je pensais pas le dire cette année, voir à seulement 3 défaites. Et il a une éthique de travail, une éthique de repos. Il est vraiment très intelligent. C'est-à-dire qu'il est intelligent sur le terrain, mais également en dehors du terrain. C'est-à-dire qu'il prend soin de son corps. Il a compris très tôt que c'était vraiment son gagne-pain. Donc le mec, il a une machine à l'azote. Il a une machine. Il respecte le sommeil. Maintenant, j'ai même vu qu'il faisait un partenariat avec l'application la Zen pour le self-awareness, comme on dit aux États-Unis. J'ai oublié le nom. Je commence à parler.
Ouais, cette méditation.
De la méditation. Ouais, voilà. Et donc là, voilà, il est vraiment rentré dans un délire. Pour moi, ça va être le Jay-Z du basket, mec. Tu vois, c'est-à-dire qu'il a un coup d'avance sur tout le monde. Lui, il joue aux échecs quand tout le monde joue aux dames, en fait. Tu vois, c'est vraiment, vraiment un athlète hors du corps. Vraiment.
On a l'impression qu'il a anticipé énormément de choses parce que ça fait quand même 17 ans qu'il est là en NBA, mais ça fait 19 voire 20 ans qu'il a en permanence 40 caméras braquées sur lui, même quand il était à St. Vincent, St. Mary du côté de l'Ohio.
Ouais.
Cette manière de gérer sa communication, il y a, à part cette fameuse décision, The Decision en 2010, il n'y a jamais eu une erreur. C'est même au niveau de sa famille, là on l'a vu aux côtés de son fils lors d'un match justement entre le lycée de son fils et son ancien lycée à lui. Cette communication réglée comme du papier à musique, il n'y a jamais une erreur, il n'y a jamais rien. Ça doit être quand même aux États-Unis assez incroyable de réussir une chose pareille.
Ouais, c'est vrai. Après, il faut remettre dans le contexte aussi que LeBron, c'est vraiment le premier athlète qui a été aussi scruté. C'est-à-dire que Michael en son temps, Magic ou Bird avant, et même, je sais pas si tu te rappelles de Felipe Lopez, par exemple, le joueur qui vient de New York. Mm-hmm. Les magazines ont parlé, tout ça, mais LeBron, ça a vraiment été au début de, voilà, pas des réseaux sociaux, puisqu'il arrivait avant, mais vraiment au début d'Internet, avec ce buzz vraiment, vraiment important. Et la façon qu'il a pu gérer ça, comme tu disais, avec des caméras braquées sur lui H24 depuis qu'il est en high school. Enfin, je veux dire, la LeBron mania, elle était incroyable aux États-Unis. C'est-à-dire que ESPN au début des années 2000, qui met des caméras sur un gamin de Akron, Ohio, c'était du jamais vu. Je veux dire, même les LaMelo Ball et compagnie n'avaient pas cette espèce d'engouement médiatique, on parlait quasiment que de lui, puisqu'en plus les médias étaient plus restreints, donc c'était vraiment, il n'y en avait que pour LeBron. Et cette façon qu'il a eu de gérer la pression constamment à l'âge de, ouais, quoi, 16, 17 ans, enfin, pour moi c'est irréel, il a vraiment, vraiment assuré de ce côté-là, c'est vraiment indéniable.
Et ben on continuera à suivre LeBron dans ses aventures, et puis d'ici le All-Star Break, on reparlera de NBA avec toi, Aymeric. Merci beaucoup d'avoir passé ce moment avec
nous.
Ouais,
avec plaisir.
On te suit sur Instagram, bien sûr, pour des petits carnets de voyage également. Il y en a un assez passionnant sur Chicago assez récemment. Et on suit l'actualité new-yorkaise et américaine avec toi tous les jours.
Merci beaucoup,
Einstein. À très bientôt. Et là, on était à Harlem. Allez, on va pas faire de jaloux. On va partir du côté de Washington, D.C. avec ce petit morceau de Roy Ayers. Merci encore, Aymeric. À bientôt.
Alors, salut. Wasn't long ago I had a vision. D.C. City inside my mind, yeah. D.C. City, it was all about unity. D.C. City, people living together, yeah, yeah. D.C. City, people sharing together. Holding hands and living together. Summertime round the moon, winter's rain coming in. DC City, listen here. Music sounds out so clear for you. Family living in harmony.
Allez, on continue de voyager. Tout va bien pour toi, Seb, toujours ? Brooklyn
Ah bah impeccable, ouais, ça parle de NBA, je suis à fond.
Bah justement, on se continue notre petite soirée entre gars, tranquillou là. On vient de parler de NBA il y a quelques instants avec notre ami Fresh Air. On était à Harlem, on a parlé de Brooklyn, on est revenu par Washington. On revient, c'est un peu plus... On revient sur Terre, on va à Strasbourg maintenant, on va retrouver notre ami Sam Mantelet du collectif Sneakers Empire et animateur émérite de l'émission Sneak on Air. Salut Sam.
Salut.
Ça va bien?
Ouais, super. Bon. J'ai raté la partie NBA, je suis désolé. Par contre, pour faire le lien avec Brooklyn, ici je suis en direct du Neuhof qui est un des quartiers chauds de Strasbourg, donc tu vois c'est un petit peu le... voilà.
C'est la continuité logique.
Et je te fais même, je te le dis, c'est sans doute une interview à vélo.
Ah, alors la dernière fois qu'on s'est parlé, c'était une interview à pied, que tu allais traverser un funeste marché de Noël, il me semble.
Absolument, exactement. Je sais pas si on, c'est pas forcément drôle d'en reparler.
Non, mais en effet.
Grâce à, je veux quand même en parler parce que c'est quand même un traumatisme assez important pour la ville de Strasbourg et pour moi et pour mon équipe de la radio particulièrement parce qu'on était au cœur de cette histoire d'attentat et de terroriste. Et c'est quand même toi entre guillemets qui m'a peut-être sauvé la vie quoi. Juste entre nous quoi. Juste faut le dire. C'est-à-dire que comme j'étais en interview avec toi et que je me suis arrêté, je n'ai pas traversé la ville au moment même où ce criminel perpétrait ses crimes.
Bon, bah écoute, alors on sera liés à vie avec cette histoire-là.
Oui.
Voilà, et on en profite pour envoyer toutes nos pensées, bien sûr, aux familles des victimes en ces périodes de fêtes de fin d'année et de fêtes de fin de décennie.
Absolument,
c'est l'heure des bilans.
C'est l'heure du bilan, calmement.
Voilà, alors j'imagine que dans l'émission Sneak on Air, on le répète, cette émission radio 100% sneaker, la seule émission au monde 100% sneaker radio. Vous allez vous aussi faire vos bilans de l'année 2019 qui a été une année assez faste quand même, on va pas se mentir, en matière de sneakers, mais également une décennie assez incroyable.
Et ça grâce à toi. Parce que c'est toi qui a donné l'idée de cette soirée spéciale où on va être un peu en mode débat, c'est-à-dire quelle est la sneakers de l'année pour un tel, quelle est la sneakers de l'année pour l'autre.
Faut que je trouve un train tout de suite ou un avion, faut que je vous rejoigne, là j'ai une heure.
En parlant de train, il y a un tram qui va passer dans une seconde, donc si tu veux monter dedans, tu seras avant moi à la radio.
C'est ça. Alors dis-nous un petit peu, toi, cette décennie déjà pour toi, quel en était le maître mot? Est-ce que c'est resell, internet, hype? Qu'est-ce que...
Ben, c'est surtout qu'une décennie, c'est long, hein. Donc c'est 10 ans, et en 10 ans, il se passe beaucoup de choses. Et je pense que justement, le marché de la sneaker, en 10 ans, il a explosé. Tout simplement. En faisant un petit peu, en préparant cette interview... J'ai regardé, j'ai fait un retour en arrière et je me suis rendu compte de l'évolution de 2010 jusqu'à aujourd'hui. C'est plus qu'une explosion, en particulier avec un phénomène énorme qui n'était pas aussi fort auparavant, pas aussi fort en quantité, c'est les collaborations.
Mmh, bien sûr.
Les exclusivités, les séries limitées. Je me suis penché, alors comme bible, comme source, je la cite parce que je l'aime beaucoup. C'est un livre qui s'appelle All Gone, mm-hmm. qui est un livre qui est édité par la MJC, qui est un collectif parisien, et en particulier par Mickaël Dupuis, qui, tous les ans, fait un petit peu un état des lieux de toutes les collaborations qu'il y a pu avoir durant l'année. Alors, sur les sneakers, mais pas uniquement, sur les berbriques, sur les accessoires, sur quelques textiles. Et comme j'ai toute la collection à la maison, bah, j'ai repris chaque All Gone 2010, 2011, 2012 jusqu'à aujourd'hui pour regarder un petit peu ce qu'il en était. Et ce que j'ai constaté, c'est ça, c'est cette évolution en termes de collaboration. En 2010, toutes les marques, à peu près, faisaient des collaborations, plus ou moins, et il n'y en avait pas autant qu'aujourd'hui. En 2019, Nike est le numéro 1 incontesté des collaborations. Il bouffe tout le monde. Les autres marques s'en sortent encore là-dedans. Mais en tout cas, j'ai vraiment vu la différence. C'est-à-dire que 2010, Nike avait une énorme hégémonie sur le marché, était inquiété par personne, donc n'avait pas besoin réellement de mettre en place des collaborations. 2018, 2019 et à partir de 2015, ils ont été un petit peu bousculés, en particulier par Adidas. Mmh. Et ils se sont mis ils ont réagi à la Nike, c'est-à-dire avec le rouleau compresseur. Et en gros, vous avez titillé un petit peu, vous allez voir ce que vous allez prendre.
Et justement, alors c'est ce rouleau compresseur qui a été, on va dire, concrétisé par cette fameuse application qui s'appelle Sneakers, la seule application. Alors l'autre jour, j'ai eu le plaisir de faire avec le collectif Encore Sneakers une conférence autour justement de ce phénomène-là, et quelqu'un dans le public a posé la question, a dit à quel point les sneakers régissent, on va dire, notre vie. Et la seule réponse qui m'est venue, c'est: est-ce que tu connais une seule personne, toi, qui est capable de te faire lever tous les samedis à 8h55?
Avant c'était le curé, je crois.
C'est ça.
Et maintenant c'est Sneakers ou d'autres sites internet. Oui, c'est vrai que le resell, donc l'achat et la revente et les séries limitées ont totalement modifié le game, comme on l'appelle, le sneaker game, les règles du jeu, et nous ont rendu complètement fous, clairement, à être devant notre ordinateur, à cliquer. À être tellement triste parce qu'on n'a pas réussi à avoir la paire qu'on voulait, et après à en rêver à un prix totalement souvent exorbitant.
Mais il y a une culture de la frustration quand même.
Ah mais énorme, énorme. Non, mais moi je vais te le dire, je vais le dire à tes auditeurs. Je ne le fais plus. Je ne me lève plus le samedi matin parce que c'est trop dur. Cette frustration, j'en ai eu marre et je suis pas le seul. Le nombre de potes qui ont supprimé l'application Sneakers de leur téléphone. Le nombre de potes qui arrêtent. Et moi, j'ai arrêté parce que je préfère ne pas l'avoir sans essayer plutôt que de ne pas l'avoir en étant frustré, quoi.
Alors, on parlait des collaborations, on parlait des moments pivots un petit peu, moments charnières de cette décennie. Un top 10, ça a été un petit peu long, peut-être fastidieux à préparer, mais allez, on va essayer d'en discuter un petit peu, de débattre pendant quelques instants.
Alors, ce qui s'est passé quand même, l'événement entre... Enfin, il y en a eu plusieurs sans doute, mais un des événements de la décennie, c'est Kanye West, qui est passé de Nike à les nuits, qui est passé de Nike à Adidas. Ça a quand même été un énorme bouleversement du game, justement, toujours des règles du jeu, puisque auparavant, en 2010, Nike avait encore 95% de parts de marché sur les sneakers. Il faut bien se le dire, il faut bien se l'entendre. Et puis 2013, 2014, 2015, Adidas a fait une entrée fracassante sur ce marché avec la Stan Smith, où ils ont très bien orchestré le retour de la Stan Smith sur le marché, puis avec l'arrivée de la technologie Boost, puis avec la signature de Kanye West. Et tout ça cumulé fait que... Alors désolé, ça c'est les pétards à Strasbourg, c'était aussi une grande tradition et ils s'entraînent pour le 31, ils sont bien en avance. Donc il y a eu ces trois éléments qui font que Nike est passé de 95 à 70%. Mmh. Il y avait vraiment, Adidas a grignoté énormément de parts de marché, la raison pour laquelle Nike s'est mis en colère et a multiplié les sorties, les collabs, etc. Mais je pense que ça a vraiment été un facteur très, très puissant, et ce facteur-là a engendré un autre bouleversement un peu sur ce marché, c'est les collaborations avec des artistes. Auparavant, les marques de chaussures, elles faisaient des collaborations avec les sportifs. Et puis il y a eu Run DMC effectivement, et quelques autres qui ont suivi, mais il n'y en avait pas encore énormément. 2010, c'est fini. Les sportifs ne sont plus les égéries des marques de sport, ou très peu, dans le monde de la sneakers. C'est les artistes, principalement les musiciens et principalement les rappeurs.
Kanye West, Travis Scott qui fait une percée absolument hallucinante depuis un an. C'est lui qui fait la pluie et le beau temps en ce moment ?
Un petit peu. Il y a un autre enfant de Kanye West qu'il faut évidemment citer, c'est Virgil Abloh, qui n'est pas un rappeur mais qui est un artiste, qui est un directeur artistique, qui est monté en flèche, qui est un des sujets de son Altesse Kanye West. Et puis qui a remplacé Kanye West chez Nike en créant, pareil, toute cette ligne The Ten of White avec des modèles Nike revisités par ce directeur artistique Virgil Abloh et qui ont là aussi défrayé la chronique, explosé le monde du resell, c'est-à-dire de la revente de sneakers. Ça a été assez phénoménal aussi. Donc moi j'avais noté comme ça les noms de cette décennie. J'avais noté donc Kanye West. J'avais noté Virgil Abloh et un autre qui est peut-être un petit peu moins connu du grand public, mais qui a fait énormément de collaborations, qui s'appelle Ronnie Fieg, qui est le créateur de la marque Kith, du magasin Kith, K-I-T-H. Je vous invite à aller voir ces magasins de New York ou de Los Angeles, qui sont pour moi les plus beaux magasins de sneakers au monde, et qui a multiplié les collaborations avec ASICS, avec Puma, avec New Balance, et pourquoi pas Nike. Je ne sais pas s'il en a déjà fait une, mais je crois qu'il y en a une dans les tuyaux.
Le phénomène Off-White, bien sûr. Le phénomène Yeezy également. Kanye West qui avait dit il y a quelque temps des Yeezy pour tous. Est-ce que ce n'est pas trop, justement ?
Alors, je ne suis pas la meilleure personne à interroger sur la question des Yeezy parce que ce n'est pas le truc qui me touche le plus. C'est pour moi la première sneakers qui n'est pas une chaussure de sport. Jusqu'alors, les sneakers, ces chaussures, ces baskets qu'on porte à la rue, c'était toujours ce qu'on appelle du détournement d'usage. C'est-à-dire que c'était des chaussures faites pour le sport, pour le tennis, pour le basketball, pour le running et d'autres, et qu'on mettait dans la rue. Finalement, on se disait, finalement, c'est assez confortable, donc je vais aussi les mettre dans la rue. Et c'est devenu des sneakers où on les mettait plus que dans la rue, avec ce que je viens de dire, des collaborations, des séries limitées, etc. Kanye West, avec ses Yeezy, surtout chez Adidas, c'est un peu moins le cas chez Nike pour moi, est venu avec une chaussure qui n'est pas une chaussure de sport, qui est vraiment une sneakers à part entière, une chaussure typée sport, avec des technologies sport, mais qui n'est faite que pour la rue. C'est-à-dire, personne ne va avoir l'idée de courir avec des Yeezy. Il y a eu un joueur NBA qui a eu l'idée un jour de jouer avec des Yeezy. Je pense qu'il l'a peut-être regretté, ou ses genoux en tout cas l'ont regretté. Donc, c'est vraiment un phénomène très nouveau. Et moi, le look des Yeezy, aujourd'hui, ça ne me touche que très peu. Donc je suis peut-être pas la meilleure personne pour ça.
Mais tu es un des grands spécialistes de la Air Max One, et ça les gens doivent le savoir s'ils ne le savent pas encore. Donc cette spécialité, la Air Max One, qui a été avec la Jordan One certainement un des modèles les plus remis, Air Force One, Jordan One et Air Max One, certainement les trois les plus colorisés de ces 10 dernières années. Je crois qu'il y a eu, en 2018, c'était hallucinant, je crois qu'il y a eu plus de 63 Jordan 1 qui sont sortis, soit plus d'une par semaine, c'était fou. Oui. On se rend compte que cette sainte trinité chez Nike, finalement, c'est ce qui marchera toujours.
Ah, c'est incroyable, c'est dans les vieux pots qu'on fait les meilleures soupes, quoi. C'est vraiment le meilleur proverbe pour ça. Et c'est vrai que Air Max One, moi j'ai noté en 2010, Air Max One Para, encore une fois une collaboration avec un artiste qui a marqué son temps. Évidemment les Air Max One Atmos, le pack Air Max One Air Jordan 3 Atmos, la Air Max One effectivement.
Qui arrive après-demain, ça d'ailleurs.
Je la suis de très près et c'est sans fin. Même si 2020 va sans doute marquer un petit coup d'arrêt pour la Air Max One, qui va pas être très très vue, très très revue non plus. C'est la Air Max 90 qui va être à l'honneur puisque ça va être son anniversaire.
Bien sûr.
Il va y avoir aussi la Air Force One qui va revenir et la Blazer de Nike qui va être à l'honneur en 2020.
La sneaker qui aussi s'est mis en phase avec pas mal de débats de société. On a une Air Force One qui va mettre en avant Colin Kaepernick et son combat contre les violences policières, qui est devenu Colin Kaepernick, un joueur de NFL qui est devenu une icône du mouvement Black Lives Matter. Et puis aussi LeBron James avec son message, mort d'un athlète justement. C'est devenu finalement un vrai outil de communication.
Ah bah complètement, hein. c'est assez terrible. Et alors je voudrais faire le lien pour montrer que ça va très très loin et jusqu'où ça va aller. C'est que là il y a la Air Jordan 11 Bred, qui est un modèle assez iconique qui est ressorti la semaine dernière, samedi. Et je ne sais pas si tu as suivi, mais il y a encore eu un petit souci aux États-Unis où il y a des adolescents qui se sont tirés dessus à cause de cette chaussure.
Bien sûr.
Donc les messages, ils vont être de plus en plus portés effectivement vers des messages un peu humanistes. Alors moi, j'ai toujours un petit peu de mal de mélanger commercial, business et humanisme. Mais si ça peut éventuellement servir certaines causes, pourquoi pas. Je sais pas si je vais. Je pense que je dois bientôt conclure et donc je vais faire un lien que je trouve très drôle sur les thèses humanistes et sur les sneakers. C'est qu'il ne faut pas oublier que dans cette décennie, il y a une chaussure qui est arrivée un petit peu dans le monde de la sneakers et pourtant ça ne ressemble pas du tout. C'est une claquette. C'est dans cette décennie que les claquettes sont arrivées à la mode. C'est-à-dire les claquettes Adidas, les claquettes Supreme étaient portées de la même manière qu'on porte des sneakers. C'est-à-dire c'est chaussettes, claquettes dans la rue. Je voudrais quand même le rappeler hein, à nos auditeurs de ne pas oublier ce phénomène des claquettes et aussi se rappeler un autre phénomène qui m'a absolument surpris et qui me tue par rapport à justement toute cette histoire des baskets, c'est pour ça que ça me passionne, c'est que les fameuses requins, les Nike TN, ce modèle propre aux banlieues françaises, aux quartiers français qui date d'il y a plus d'une décennie pour le coup, mais par contre c'est dans cette décennie qu'on les a vus fouler les podiums de mode.
Absolument.
On les a vus au pied des gens de la Fashion Week. Je trouve ça génial, ce genre de passerelle, ce genre de transfert. Et c'est ce qui me passionne dans ce monde des sneakers, c'est que tout est possible.
Et 2020 qui verra l'arrivée, évidemment, de cette fameuse collaboration entre Jordan et Dior, on va en reparler, on en reparlera. En tout cas, j'imagine que vous allez en parler ce soir dans Sneak on Air. Ça démarre à 20h, je crois.
Oui.
Ah bah... Eh ben, on te laisse y aller tranquillement.
Vous pouvez prendre le relais sur www.radio-rbs.com si vous voulez écouter le live de l'émission.
Ben moi, j'y vais tout de suite, je finis. Et je m'y jette, en tout cas, pour écouter ce fameux bilan que vous allez faire tous
Merci,
ensemble.
Merci, Mars.
Merci, à tout bientôt. Et bonne
à
fête à toi. Salut, Sam.
Ciao, bonne fête à toi aussi. Bye.
Et on se joue tout de suite un petit extrait de notre Track of the Week, Seb. Et il me semble que c'est un morceau de Ketranada, c'est ça? C'est Elodie qui l'a choisi. Mais on l'écoute tout de suite, c'est extrait de son tout dernier album.
Grinding, I need a more, digging through the rhyme till I'm finding a norm right behind this shot.
Kate Ranada, Grey Area, Track of the Week de cet épisode. Nous avons beaucoup parlé de plein de bonnes choses, n'est-ce pas mon ami Seb?
Absolument.
Bon, eh bien écoute, je te souhaite d'excellentes fêtes.
Eh bien merci, toi aussi.
Voilà, 2019 pour nous qui s'achève presque. Seb Gély était à la réalisation de cette émission, comme toute l'année. Et il sera là encore en 2020. On vous souhaite d'excellentes fêtes de fin d'année, donc le 24 décembre et le 31, réveillonnez bien. On vous passera des petites rediffs ou des petits mix. On va essayer de vous préparer quand même quelque chose. Hangtime, c'est tous les mardis, 19h, 20h, rediffusé au bon vouloir de Seb Gély dans le courant de la semaine. Et puis sur le radiogrenouille.com/hangtime, vous retrouvez les podcasts de cette émission. Nous sommes également présents sur les réseaux sociaux Facebook, Instagram, plein de bonnes choses à venir. On se retrouve en 2020. Salut à tous et quoi que vous fassiez pour les fêtes, surtout faites-le bien.
It's easy to cover Mars Blackman.
No, my name's me.
Who?
Me.
Who?
Me. From back in the day.
Mars?
Yeah. Is this really it?
You're gonna retire?
You wanna quit?
Is it true?
Yes, Mars.
You sure?
Yes, Mars.
Really? Truly?
Cross your heart and hope to die and stick a needle in your eye?
Yes, Mars.
So long.
Goodbye.
Farewell.
Well, good.
Again?
Goodbye, Mars.